Et voici la revue de presse des journaux français avec Frédéric Couteau et à la une, Frédéric, plusieurs Français tués au Niger.
Oui, c'est le grand titre de West France. L'attaque meurtrière à moto a eu lieu hier près de la réserve aux girafes de Kouré, à une heure de route de la capitale, Niamey, précise le journal. Dans la soirée, l'Élysée a confirmé des Français parmi les victimes qui étaient arrivés sur place à bord d'un véhicule de l'ONG française Actid. En fait, détaille le Figaro, le groupe était composé de 6 personnes, d'un guide et d'un chauffeur, 6 expatriés français et 2 Nigériens. L'organisation humanitaire Actid a annoncé hier soir que 7 membres de son personnel faisaient partie des victimes, les 6 Français donc, ainsi que leur chauffeur. Pour l'instant, pointe encore le Figaro, les autorités restent silencieuses sur l'identité des assaillants, mais l'hypothèse d'un attentat islamiste est largement envisagée, même si les alentours de Kouré étaient jusqu'à présent considérés comme calmes. Les djihadistes ont pour habitude d'utiliser des motos, un mode de déplacement d'ailleurs interdit dans la région depuis janvier. Le Niger subit depuis 2010, rappelle encore le Figaro, l'impact de la montée du djihadisme, puis de la guerre au Mali, qui a rapidement débordé de ses frontières pour affecter l'ouest du pays.
Pour la Charente libre, ces assassinats de sang-froid sont une sinistre piqûre de rappel de l'emprise djihadiste qui progresse sur le Sahel, malgré Barkhane et ses quelques 5100 militaires français.
Fin juin, lors du dernier G5 Sahel, Emmanuel Macron affichait encore un optimisme de façade très peu partagé, nous rappelle le quotidien charentais. La victoire sur le djihadisme est possible, affirmait-il, après les succès des forces spéciales contre le haut du spectre terroriste, dont le chef d'ACMI. Mais tous les analystes conviennent d'une aggravation continue de la situation, relève encore le quotidien charentais, multiplication d'attentats, attaques sporadiques, massacres intercommunautaires et ces derniers mois, exactions et tueries perpétrées par les forces armées et les milices antiterroristes du Niger, du Burkina Faso ou encore du Mali. Les stigmates de cette gangrène sont trop connus. La prolifération des groupes djihadistes et mafieux concurrents, l'embrigadement d'enfants soldats, de populations laissées à l'abandon par des États impuissants et minés par la corruption. En fait, pointe encore la Charente libre, la France est face à une alternative insoluble, rester au risque de morts supplémentaires, d'une opposition croissante des populations contre une ingérence néocolonialiste, ou bien partir en laissant le djihadisme et ses multiples avatars régner sur l'immense Sahel. Emmanuel Macron fait le choix de persévérer au prix de l'impopularité, très seul et sans réussir à convaincre les Européens d'entrer activement dans la bataille.
À la une également, la colère des Libanais.
Le 4 août 2020 est entré dans l'histoire des Béroutins comme le 11 septembre 2001 des New-Yorkais ou encore le 13 novembre 2015 des Parisiens. C'est ce que relève Libération. Ce n'est plus la colère qui anime les Libanais, c'est la rage, c'est la haine, poursuit le journal. Près d'une semaine après l'explosion du port de Beyrouth, une fois la phase d'hébétude passée, la poussière des gravats retombée, c'est l'envie de se faire justice soi-même qui domine, puisque la justice libanaise, depuis longtemps, ne joue plus son rôle. D'où les scènes de ce week-end, avec des simulacres de pendaison sur la place des Martyrs, comme si cette explosion avait d'un coup laissé s'échapper toutes les frustrations, tout le désespoir contenu, bon an, mal an. Il y aura clairement, conclut Libération, un avant et un après ce 4 août fatidique, mais nul n'est capable de prédire aujourd'hui ce que sera cet après.
En effet, complète sud-ouest, en rage contre leurs dirigeants, les habitants prônent une solution radicale. Pendez-les tous, mais ce dégagisme à la libanaise se heurte à de sérieux obstacles.
Secouée depuis un an par un puissant vent de contestation, la classe politique libanaise témoigne d'un art consommé pour s'accrocher au cocotier. Et malgré la fureur des manifestants, convaincus de la responsabilité directe de leurs élus dans les explosions meurtrières de mardi à Beyrouth, la crainte de voir le régime redoubler d'immobilisme est palpable. La raison, explique Sud-Ouest, en est que le clientélisme et la corruption prospère sur l'humus d'une vieille culture du consensus. Pour faire tenir ensemble une mosaïque de 18 communautés, allant des chrétiens maronites aux chiites, en passant par les druzes, les arméniens, les sunnites ou encore les grecs orthodoxes, l'État libanais s'est bâti comme un fragile espace de compromis où la règle non écrite est qu'aucun groupe ne doit prendre le pas sur les autres. Déjà compliqué, ce jeu est devenu paralysant lorsque des puissances étrangères, Syrie hier, Iran et Arabie Saoudite aujourd'hui, se sont imposées dans les marchandages libanais. Dynamiter cet édifice byzantin pour faire émerger un État neutre et déconfessionnalisé est un travail d'Hercule, s'exclame Sud-Ouest. Tout le monde s'y est cassé les dents, à commencer par le peuple libanais. La question est désormais de savoir si le drame du port de Beyrouth sera l'électrochoc capable de précipiter les fameuses réformes de structure demandées depuis des années par les bailleurs internationaux.